France Culture.
Mais avant, un point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel.
Bonjour Marie, mais on reviendra tout d'abord sur la brutalisation du débat public après la mort de Quentin Derenck et l'onde de choc politique provoquée par ce décès jusqu'à renverser parfois les partis pris idéologiques en France, mais pas seulement. On s'intéressera à une procédure inédite initiée par plusieurs associations et la ville de Paris qui accuse Total Energy d'avoir manqué à son devoir de vigilance en matière de risques environnementaux. À suivre également les résultats en trompe-l'œil de l'avion Airbus. Avec notre invité, on parlera vulnérabilité au risque de crue. Puis on tâchera d'éclairer la situation à Gaza. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dit craindre ce matin un nettoyage ethnique. Dans le même temps, la première étude de terrain indépendant des autorités locales vient révéler la sous-évaluation du nombre de morts violentes liées au conflit. Va-t-on assister à un basculement idéologique en France? Le transfert de la diabolisation du Rassemblement National vers la France Insoumise depuis le lynchage mortel la semaine dernière à Lyon du jeune militant d'extrême droite Quentin Derenck. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon se retrouve pointé du doigt, y compris à gauche, confèrent les attaques portées par l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann ou bien encore l'ex-président socialiste François Hollande. Hier, le président du RN Jordan Bardella a même prôné un cordon sanitaire pour un tout sauf LFI aux prochaines échéances électorales. Bref, un renversement spectaculaire du jeu politique qui viendrait attribuer désormais aux seuls insoumis le monopole de la radicalité. Et c'est d'ailleurs vrai également au-delà des frontières de l'Hexagone. Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Rome. Hier, la chef du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni, a déclaré « Quand la haine et la violence prennent la place du dialogue, c'est toujours la démocratie qui perd ».
Et le parti de la première ministre est en première ligne pour faire de cette affaire un exemple qui va au-delà de la France. La députée Augusta Montarulli, hier à la Chambre à Rome.
Fratelli d'Italia demande une minute de silence à la mémoire du jeune Quentin Derenck. La haine et la violence politique doivent être condamnées sans la moindre excuse.
Dans son tweet publié hier, Giorgia Meloni déplore la mort d'un jeune homme emporté par un climat de haine idéologique qui traverse plusieurs pays. Fratelli d'Italia accuse en particulier un représentant d'un des petits partis de l'opposition, l'Alliance des Verts et de la Gauche, d'avoir accueilli avec les honneurs le député LFI Raphaël Arnaud en octobre 2024 à Rome. Le parti en question dénonce toute instrumentalisation politique et menace de poursuite en justice. Cette offensive s'inscrit dans un contexte italien. Entre manifestations pour Gaza ou contre l'évacuation de centres sociaux qui squattent les immeubles. Depuis l'automne, le climat social est tendu en Italie et à chaque fois, Giorgia Meloni accuse la gauche de ne pas prendre assez ses distances avec les éléments les plus radicaux. De fait, les relations d'une partie de l'opposition avec les extrêmes gauches restent ambiguës, mais l'ambiguïté est des deux côtés. Les demandes de l'opposition de dissoudre l'organisation d'extrême droite, Casa Pound, récemment condamnée pour des violences, restent sans réponse au gouvernement.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. Et j'ajoute concernant cette fois-ci l'enquête en France sur la mort de Quentin Derenck que les premières mises en examen sont attendues dans la journée. Quant au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, il s'est dit inquiet ce matin et a demandé à la préfecture d'interdire la marche hommage prévue samedi dans sa ville. Il évoque la crainte de la présence de militants d'extrême droite venus de toute la France et de pays frontaliers.
Accusé d'avoir manqué à son devoir de vigilance sur les risques environnementaux, le groupe Total Energy sera jugé à partir d'aujourd'hui à Paris.
Et depuis son assignation en justice, c'était en 2020, il aura donc fallu 6 longues années pour que ce dossier aboutisse enfin devant la 34e chambre du tribunal judiciaire. Alors de quoi parle-t-on? Depuis 2017, une loi impose aux grandes entreprises d'identifier et de prévenir les risques possibles pour éviter qu'elles ne se défaussent de leurs responsabilités sur leurs sous-traitants. Reste à savoir si les dites entreprises doivent se limiter aux risques à une échelle locale ou bien si elles doivent intégrer un phénomène mondial comme le changement climatique. Véronique Robert-Rod, bonjour.
Bonjour.
Au-delà du seul cas donc de Total Energy, ce procès au civil est en réalité symptomatique d'une tendance plus générale. Aujourd'hui, on voit se multiplier, Véronique, les contentieux climatiques soumis donc à des décisions de justice.
Oui, c'est par exemple en France l'affaire du siècle, soutenue par une pétition qui avait recueilli plus de 2 300 000 signatures. Par un jugement de février 2021, le tribunal administratif de Paris avait condamné l'État français pour son inaction climatique. Le tribunal a reconnu les carences fautives de l'État dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique. Il y a eu plusieurs procédures depuis, et ce n'est toujours pas terminé. Emblématique aussi l'affaire Shell aux Pays-Bas. En 2021, la justice néerlandaise avait obligé le pétrolier Shell à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Une décision cassée depuis par la cour d'appel de La Haye. Toutefois, la juge avait réaffirmé les principes de la justice climatique et ouvert la voie à des contentieux visant les entreprises qui ne respectent pas l'accord de Paris sur le climat. C'est exactement ce qui est reproché à Total Energy aujourd'hui, selon les plaignants. La multinationale pétrolière persiste à investir massivement dans les énergies fossiles, alors qu'elle a connaissance, depuis les années 70, des conséquences néfastes sur le climat de ses activités. Les entreprises répondent qu'elles ne peuvent pas être tenues seules responsables des dommages climatiques. Ce sera d'ailleurs une des lignes de défense de Total Energy pendant ce procès.
Merci Véronique Robérotte.
Depuis le début de l'année, il est tombé l'équivalent d'un hiver entier, voire plus, de précipitations sur la pointe bretonne, le pourtour méditerranéen et un large quart sud-ouest du pays.
Et après 35 jours de pluie consécutive, soit la plus longue période de précipitations depuis le début des premières mesures, c'était en 1959, le passage de la tempête hivernale. Pedro incite toujours Météo France à la plus grande prudence, d'autant que conjuguée à de forts coefficients de marée, elle fait craindre de nouvelles inondations aujourd'hui. Déjà, les images de cet épisode relativement inédit parlent d'elles-mêmes, des villages isolés, des routes, des voies ferrées sous les eaux, des barques qui parfois sillonnent les villes. À cela s'ajoute un bilan humain meurtrier, au moins 5 personnes décédées directement ou indirectement en raison de ces événements climatiques et une autre toujours portée disparue. On pourrait également évoquer le désespoir des habitants, fatigués d'attendre la décrue définitive, sans oublier l'accablement des agriculteurs dans les prochains jours. Des arrêtés devraient d'ailleurs être pris pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et ainsi faire jouer au plus vite les assurances. Quoi qu'il en soit, et pour parler de la vulnérabilité justement au risque de crue et de l'adaptation, invité de la rédaction aujourd'hui, Sylvain Rode, maître de conférence à l'université de Perpignan, spécialiste de l'aménagement face au risque d'inondation et par ailleurs auteur d'un livre, Écologiser l'urbanisme, paru aux éditions du bord de l'eau, c'était en 2023. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avec le dérèglement climatique, les épisodes de précipitations intenses comme les crues importantes, comme celles que l'on connaît en ce moment même, deviennent de plus en plus fréquentes. Que faudrait-il faire pour mieux adapter les territoires pour faire face donc à ce risque ?
Il y a plusieurs registres d'action possibles, mais déjà un préalable, c'est le fait que les acteurs publics qui sont en charge de l'aménagement des territoires et de la gestion des risques reconnaissent la nécessité de changer leur manière de percevoir le risque et l'aménagement de leur territoire avec le risque. Parce que pendant longtemps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'aménagement des territoires, le développement d'urbanisation se sont faits en occultant un peu le risque, en faisant comme si les territoires n'étaient pas inondables, ce qui a contribué à une forte augmentation de la vulnérabilité des zones inondables. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élus locaux qui commencent à prendre conscience du fait que désormais, ils doivent repenser l'aménagement de leur territoire avec l'inondabilité, en se disant que leur territoire, ils doivent les adapter dans les modalités d'aménagement pour que l'inondation soit moins, les inondations lorsqu'elles se produisent soient moins catastrophiques.
Alors, on imagine justement que la vulnérabilité est plus ou moins grande selon les territoires. Ce faisant, quelle différence existe dans la manière d'appréhender donc d'un territoire à l'autre ce risque lié au changement climatique ?
C'est vrai que selon les territoires, les situations sont assez différentes. Par exemple, dans les territoires qui connaissent des crues lentes, les modalités d'adaptation des territoires vont être différentes de celles de la zone méditerranéenne, par exemple, où les crues sont plus brutales, plus rapides, et où donc les manières de gérer et d'anticiper l'événement seront différentes.
On cite un exemple parfois, celui des habitants du village de Béhuard, c'est une île sur la Loire régulièrement confrontée à ces inondations, comme détenteur d'une culture de la crue, donc qui leur permettrait de mieux faire face à ces phénomènes. Il se trouve que vous avez travaillé sur ce territoire. À quoi correspond cette culture de la crue ?
Cette culture de la crue, en fait, ça correspond. Bon, déjà, Béhuard, c'est un territoire un peu particulier puisque c'est une île hein, sur la Loire. Donc, c'est un territoire qui, en fait, est confronté très régulièrement à la montée des eaux du fleuve et donc qui est régulièrement inondé. Et donc, déjà, cette habitude de l'inondation, c'est un premier élément déterminant. Et donc, ensuite, cette culture du risque, elle correspond à une forme d'habitude de vivre avec le cours d'eau, finalement, au rythme du fleuve, au rythme de ses fluctuations, ce qui permet d'intégrer à la vie du village, à la vie des habitants, ces fluctuations de l'eau. Et donc, à Béhuard, le risque, il est domestiqué, on pourrait dire, il est intégré dans l'organisation de l'espace et du temps. Et par exemple, il y a des maisons qui sont surélevées, les habitants, ils ont des barques à fond plat pour se déplacer en cas d'inondation. Ils savent quoi faire et quoi ne pas faire en cas d'épisode d'inondation, etc. Donc, la culture du risque, c'est ça, c'est avoir l'habitude et savoir comment se comporter en cas d'inondation.
Une dernière question. Hier soir, après l'Association des maires de France, la Fédération des intercommunalités s'est indignée à son tour des propos de la ministre de la Transition écologique qui estimait hier que les collectivités locales n'utilisaient pas assez la possibilité de lever une taxe, dite Gemapi, dédiée justement à la prévention du risque de crue. En réalité, cette séquence s'inscrit dans une polémique au long cours sur un éventuel désengagement de l'État sur ces questions. Malgré tout, comment est-ce que vous percevez donc cette passe d'armes ?
Cette passe d'armes entre l'État et les collectivités en matière de gestion des risques, c'est un classique. Mais après, sur la polémique en question, là, sur la Gemapi, effectivement, ça c'est un changement en termes de gouvernance de la prévention des risques hein, depuis 2015, qui fait que notamment la gestion des digues, de l'entretien des digues, a été transférée aux collectivités territoriales pour essayer de mieux assurer leur entretien, etc. Donc, ça s'inscrit dans une étape de la décentralisation. Hein, voilà.
C'est bien compris. Merci Sylvain Rode, maître de conférence donc à l'Université de Perpignan, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage donc paru aux éditions du Bordelot en 2023, Écologiser l'urbanisme. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation.
La Bourse de Paris évolue dans le rouge depuis ce matin, après la publication des résultats de plusieurs poids lourds du CAC 40.
Oui, le groupe Renault, tout d'abord, annonce avoir subi en 2025 une perte nette de près de 11 milliards d'euros. Quant à l'avionneur européen Airbus, son titre reculait lui aussi fortement, après des résultats annuels globalement solides, mais en dessous, malgré tout, des attentes des analystes en termes de prévision de livraison. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous êtes en direct de Toulouse. Airbus a annoncé un bénéfice de 5,2 milliards en hausse donc de 23% par rapport à l'année dernière. Également un objectif de livraison de 870 avions commerciaux cette année. C'est un record certes, sauf que c'est moins, Hakim, que la moyenne des prévisions.
Oui, car les difficultés, elles concernent son programme phare, l'Airbus A320neo, qui représente 75% des ventes d'Airbus à cause de problèmes de moteur chez l'un de ses deux équipementiers qui fait des réacteurs, l'américain Pratt & Whitney. Résultat, Airbus ne pourra pas atteindre les 75 appareils par mois d'ici 2027. Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, n'exclut pas une action contre Pratt & Whitney.
Pratt & Whitney a révisé à la baisse ses prévisions de livraison pour 2026 récemment, et par rapport à des commandes qu'on avait placées et qu'ils avaient acceptées. Donc ça nous met dans une grande difficulté par rapport à la montée en cadence en 2026. Et on est dans une phase de négociation, pour dire les choses poliment, avec nos amis de Pratt & Whitney, une négociation musclée. Nous considérons qu'ils sont en défaut par rapport à l'exécution de leur contrat. C'est la discussion qui est en cours.
Concernant les déclarations hier du chancelier allemand Friedrich Merz, qui n'exclut pas de sortir du futur programme d'avion de combat, le SCAF, entre la France et l'Allemagne, Guillaume Faury prévient, l'avionneur européen ne pourra pas travailler simultanément sur les deux programmes, il faudra faire un choix.
Airbus sera sur soit l'avion en commun, soit s'il y a d'autres scénarios qui sont mis en avant, et en particulier ce qui s'appelle le scénario à deux avions dont il a été question, Airbus sera, j'imagine, sur un des deux avions, probablement pas sur les deux.
En attendant, Airbus a également annoncé des bénéfices en hausse de 11% pour son activité défense, soit un carnet de commandes global de 8 754 appareils, soit Thomas, plus de 10 ans de travail pour ses salariés.
Merci à Kim Kasmi en direct de Toulouse, ainsi qu'à Benjamin Reyes pour les moyens techniques. Le monde a besoin d'urgence, de régulation en matière d'intelligence artificielle. Cet avertissement est signé ce matin. Sam Altman, lui-même, le patron donc d'OpenAI, célèbre pour son assistant conversationnel, ChatGPT. Selon lui, davantage de règles sont nécessaires aujourd'hui pour encadrer le développement vertigineux de cette technologie et limiter les risques qu'elle génère. On l'écoute.
Pour un avenir démocratique de l'IA, il ne suffit pas de donner aux gens des outils et de la richesse. Nous devons également leur donner de l'autonomie et du pouvoir. La vision que les entreprises d'IA présentent se réduit fondamentalement soit à un contrôle unilatéral, soit à un pouvoir centralisé. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas besoin de réglementation ou de mesures de protection. Nous en avons évidemment besoin de toute urgence, comme nous l'avons fait pour d'autres technologies puissantes. Nous pensons en particulier que le monde pourrait avoir besoin de quelque chose comme l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la coordination internationale de l'IA et en particulier pour qu'elle ait la capacité de répondre rapidement aux circonstances changeantes. Les prochaines années mettront à l'épreuve la société mondiale alors que cette technologie continue de s'améliorer rapidement.
Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, qui s'exprimait à l'occasion du sommet de l'IA qui s'est ouvert ce matin à New Delhi, quand bien même d'ailleurs le cœur battant de la tech en Inde se trouve en réalité à Bangalore, dans le sud du pays. C'est là que se pressent aujourd'hui les jeunes diplômés du sous-continent, au point que la ville, victime de son succès, est même clairement en surchauffe. Pénurie d'eau, d'électricité, pollution. Quand la capitale de la tech indienne est au bord de l'implosion, c'est un reportage de notre envoyé spécial Stéphane Jourdain.
Dans le sud de la ville, cet énorme cube en verre de 6 étages, entouré d'échoppes de fruits ou de fleurs, accueille un des plus grands incubateurs du pays.
Dans cet immeuble où là on est, il y a un peu plus de 1000 start-up. Oui.
Deepak Peshard, entrepreneur franco-indien, les accompagne dans leur développement commercial.
Et au total, sur tout le quartier, il y a un peu plus de 17 000 start-up qui sont installées.
De quoi justifier le surnom
It's the Silicon Valley of India.
Que tout le monde donne ici à la ville. D'ailleurs, tous les grands noms de la tech sont là. Nvidia a ouvert un centre de recherche et Google a plusieurs campus dans la ville.
Avec les startups qui créent énormément d'emplois, Bangalore continue à attirer de plus en plus de monde. Même des Indiens qui étaient installés aux États-Unis qui reviennent pour profiter de l'essor du pays.
Résultat, la population de la ville a doublé en 15 ans, passant de 7 à 14 millions d'habitants. À un croisement de rue, l'urbaniste Naresh Narasimhan pointe les défis majeurs auxquels la ville doit répondre.
Il n'y a pas assez de transports publics, donc tout repose sur les voitures, ça fait des embouteillages et la pollution ne cesse d'augmenter.
Auquel il faut ajouter le manque d'eau, des quartiers entiers sont alimentés par des citernes et les coupures d'électricité, 3 en 2 heures lors de notre visite du centre d'innovation d'Airbus.
À cause du boom de la tech, Bangalore a grossi trop vite et trop fort. Les infrastructures ne peuvent pas suivre. Pour l'instant, ça tient encore, mais si on ne réagit pas très vite, ça va devenir invivable.
Face à l'urgence, la ville a lancé d'immenses chantiers de transport public, de raccordement du réseau en eau et de réutilisation des eaux usées. Mais Naresh Narasimhan, lui...
Tout le monde sait qu'il y a trop de start-up à Bangalore. Ce n'est pas tenable.
Il miserait plutôt sur l'éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle.
Un reportage à Bangalore, signé Stéphane Jourdain.
Midi 47 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Javier Milei fera face aujourd'hui à sa 4e grève générale en un peu plus de 2 ans de mandat. Tout le pays devrait tourner au ralenti aujourd'hui, avec toutefois cette question a priori paradoxale. Pourquoi 4 mois seulement après le succès électoral du chef de l'État, sortie renforcée des législatives de mi-mandat, la colère va-t-elle encore gagner la rue en réalité? Cette mobilisation illustre un regain de conflictualité sociale contre la réforme du travail examinée à partir d'aujourd'hui à la Chambre des députés. Pour l'exécutif, ce projet de loi doit permettre de doper l'embauche, sauf qu'il prévoit de faciliter les licenciements, réduire le barème des indemnités, mais aussi rendre possible l'extension de la journée de travail de 8 à 12 heures. Le texte a d'ores et déjà été approuvé au Sénat. Le gouvernement est confiant sur son adoption par les députés. Quoi qu'il en soit, c'est donc très loin de la grève et d'une éventuelle agitation sociale que se rendra aujourd'hui Javier Milei, attendu à Washington pour la première réunion du Conseil de paix de son allié Donald Trump. Ce nouvel organe international créé pour concurrencer l'ONU, jugé inefficace par l'administration américaine, s'est donné pour mission de résoudre les conflits dans le monde et en particulier aider à la reconstruction de Gaza dévastée. Or, c'est justement en raison du chaos qui règne dans l'enclave palestinienne et des difficultés à retrouver et identifier des corps dans les décombres qu'une étude de terrain publiée par The Lancet nous apprend que le nombre réel de morts provoqués par les frappes israéliennes est aujourd'hui sous-évalué de l'ordre de 35%, ce qui signifie, Étienne Monin, que le nombre de personnes tuées, majoritairement des femmes, des vieillards et des enfants, pourrait atteindre les 80 000.
Ce que révèle cette étude, c'est qu'un nombre important de décès n'ont pas été comptabilisés par le ministère de la Santé à Gaza. À la date de l'étude, c'est-à-dire il y a un an, en janvier 2025, le bilan officiel était de 49 000 morts. Mais les accès difficiles et les risques ont compliqué certaines identifications. Certaines familles ont été entièrement décimées, sans déclaration de décès, et des corps n'ont toujours pas été extraits des décombres. L'étude prend aussi en compte la mortalité indirecte liée à la guerre, comme la maladie. La malnutrition rappelle que Gaza a été déclaré en état de famine cet été. Le total porte le nombre de morts à 83 000, dont plus de 75 000 par mort violente, soit 35 à 40% au-dessus de ce qui a été comptabilisé par les autorités sanitaires de Gaza qui sont liées au Hamas. Plus de la moitié de ces victimes, 56%, sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées, ce qui confirme ce que l'on trouve dans le registre des autorités locales. Pour cette étude, 2000 familles ont été interrogées par 20 enquêteurs dans différentes parties de la bande de Gaza. Le bilan officiel dans l'enclave, un an après le recueil de ces données, est maintenant de plus de 70 000 morts.
Jugé coupable d'avoir mené une insurrection et ainsi ravivé le souvenir douloureux de la dictature, l'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été condamné ce matin à la prison à vie. Il échappe ainsi à la peine de mort que le parquet avait requis à son encontre. Une condamnation qui vient par ailleurs perpétuer une sorte de tradition funeste, puisque depuis le tout premier président de la péninsule, la plupart des dirigeants ont été au mieux renversés ou emprisonnés, au pire assassinés ou condamnés à mort. L'alerte de la BBC s'est affichée ce matin sur des centaines de milliers de téléphones à travers le Royaume-Uni. L'ex-prince Andrew, le frère cadet du roi déchu de ses titres, a été arrêté aujourd'hui même par les forces de police, soit le jour de ses 66 ans en raison de son implication dans l'affaire Epstein et ses liens avec le milliardaire et pédocriminel américain. Enfin, on vient de l'apprendre, l'altermondialiste franco-américaine Suzanne George est décédée ce matin. Elle était la membre fondatrice et présidente d'honneur d'attaque. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Toujours gris et fortement humide sur pratiquement tout le territoire. Au total, 25 départements restent placés en vigilance pour des alertes aux crues, aux vents et aux avalanches. Seule la Provence devrait être épargnée avec de belles éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 6 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.